Vous êtes sur RTL. RTL.
Alors vous savez qu'on attend un confinement, sera-t-il strict, dur, light, léger, c'est ce que disait allégé, c'est ce que disait Cyprien ce matin. Nous sommes avec Bruno. Bonjour Bruno, vous êtes restaurateur à Paris.
Oui. Alors quand nous remettent encore un confinement, je crois que ça va être la pagaille, ça va être un tas de pintades qui vont être dans une cage d'enfer. Je pense qu'on n'en peut plus aujourd'hui, on n'en peut plus.
Mais oui, mais ça ne se traduit pas dans les études.
Alors qu'ils ferment les grandes surfaces, bordel. Ils ferment les grandes surfaces. Moi, je vais dans les grandes surfaces chercher à manger. Excusez-moi, mais merde, ça va, quoi. Les chariots, les légumes, les caisses de vin, les quoi que ce soit. On est empêché de ce virus, là. Oh.
Non mais Bruno, ce que je voulais vous dire, c'est que quand
on va fermer le resto, le virus ne va pas circuler.
Mais ça va aller bien au-delà de ça, puisqu'on va tout fermer peut-être. Peut-être, on va fermer les commerces, les écoles. Pendant ce matin, les informations qu'on a, c'est qu'Olivier Véran aurait proposé un confinement de 6 semaines strictes, façon le mois de mars dernier, et derrière 4 semaines encore, façon novembre dernier. Alors ça, c'est des propositions, c'est pas ce qui a été acté, loin de là. Mais on sait que certains sont sur cette ligne dure.
Je comprends, mais...
Si vous comprenez, c'est déjà ça, mais...
Je comprends plein de choses, mais je ne comprends pas pourquoi on ne nous laisse pas ouvert, alors. Pourquoi on ne nous laisse pas ouvert? Qu'ils ferment tout. Qu'ils ferment les grandes surfaces. Moi, c'est ça qui me
Mais oui, mais si vous fermez les grandes surfaces, d'abord...
Eh bien, qu'ils le ferment, ces grandes surfaces, c'est tout.
Mais Bruno, pourquoi les grandes surfaces sont ouvertes? Parce qu'elles ne sont pas chères, les grandes surfaces.
Mais elles ne sont pas chères. Ah ben voilà, elles ne sont pas chères.
Bah oui, elles ne sont pas chères, c'est pour ça. C'est-à-dire que autrement, vous obligez les gens à aller dans les petits commerces où c'est plus cher.
Eh bien, c'est pas grave.
C'est pas grave, c'est ennuyeux pour certaines gens qui n'ont pas les moyens.
Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez de nous faire passer pour des couillons, là. Arrêtez de nous faire passer pour des couillons. On va croire que la restauration, c'est hyper cher. On va croire que la restauration, c'est pas possible. Attendez, on a des possibilités de faire des choses impeccables. Je ne vois pas pourquoi on va nous interdire.
Moi, j'essaye d'expliquer. Vous savez bien, pour parler souvent à ce micro, ce que je peux penser, là où est ma tendance. Mais vous êtes avec des gens aujourd'hui qui ne veulent prendre aucun risque. Donc, aucun risque, ça fait qu'en 2021, il est possible qu'aucun restaurant ne soit ouvert de toute l'année. C'est une hypothèse que je n'exclus pas. C'est-à-dire que cet été, il est possible qu'on ne voyage pas. Il est possible qu'on n'ait pas le droit de bouger. Puisque, en fait, on ne tire pas les leçons. Il y a eu un premier confinement qui, manifestement, ça n'a pas été suffisamment efficace. Le deuxième non plus. Ça repart à chaque fois. Donc, s'il y a des nouveaux variants, l'année prochaine, il y aura un nouveau variant. Et puis, on peut encore fermer. C'est d'une nouvelle épidémie.
Mais je comprends plein de choses. C'est ça que j'essaye de vous faire comprendre. Mais le problème, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, qu'on vient de passer, ces jours qu'on vient de passer, attendez, moi je pars en week-end comme tout le monde, et je m'aperçois qu'on fait la queue comme tout le monde quand tu repasses ou
bah oui.
En magasin. Mais qu'est-ce qui se passe? On est comme des cons, on fait la queue, et les gens rendent la monnaie, ils n'ont pas de gants, ils n'ont pas de gel, ils n'ont rien.
Non, ils ont ils respectent. Mais la vérité, c'est qu'on ne peut pas arrêter une épidémie, voilà, c'est assez simple d'ailleurs. On ne peut pas arrêter une épidémie, on peut la limiter, pourquoi pas. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faudrait que les capacités d'accueil à l'hôpital soient plus importantes, parce qu'au moins, ça nous permettrait peut-être de vivre mieux cette période-là. Alors, Bruno, restez avec nous, je vois que vous êtes quand même un peu... c'est à la fois, je sens de la colère, mais surtout, c'est il y a quelque chose de l'ordre du désespoir pour vous aujourd'hui.
Complètement, un désespoir complet. Parce qu'on ne sait plus sur quel pied danser, on ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment faire pour tenir. C'est ça le problème.
Mais comment vous faites là, par exemple, aujourd'hui? Vous faites de la restauration?
Je ne touche aucune aide, moi.
Vous touchez zéro?
Je ne touche aucune aide, parce que je viens de faire une création d'entreprise.
Mais comment vous faites alors? Vous aviez des revenus avant?
Comment je fais? Je vis sur mes ressources, je vis sur la petite vente à emporter qui est de quoi? 10 couverts, 20 couverts? C'est ça le plaisir de travailler. Non mais arrêtez, je veux dire, c'est bon, on peut pas vendre quoi que ce soit, ils vont faire attention, ils vont faire ci, ils vont faire là-bas. Non mais attends, mais c'est bon, parce que, moi j'en ai marre de brouter de l'herbe, j'en ai marre, ça les ras-le-bol.
Bon Bruno, c'est difficile évidemment, parce que moi j'ai la chance de travailler. Donc c'est très difficile de me mettre à votre place, et je sens, si j'étais comme vous depuis autant de temps, je serais peut-être exaspéré, en colère, et je dirais peut-être les mêmes phrases que vous. Ouais. Et c'est ça, dans cette période, qu'il faut dire, c'est que ceux qui sont payés, chômage partiel, ceux qui sont salariés, ceux qui travaillent, effectivement, ils ne vivent pas, et on le dit très souvent à ce micro, ils ne vivent pas la situation de la même manière que ceux qui n'ont plus rien. Voilà. Et ça, faut le dire et le redire.
Oui,
c'est très facile de donner des leçons quand on est payé à 85% en fin de mois. Et c'est très facile d'être solidaire et de dire un confinement quand on touche sa paye à la fin du mois. Merci.
Absolument.
Bruno.
Mais je suis pas contre, tant mieux. Mais quand je vous laisse le pouvoir de faire quelque chose, non ? Où pour...
Ben merci en tout cas Bruno. On va marquer une première pause, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
C'était poignant le témoignage de Bruno, qui est restaurateur et qui effectivement est dans un état d'exaspération, parce que c'est une création, donc il n'a rien. Et il vit sur ses économies, il a 63 ans, hein, Bruno. Bonjour Laurent.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. À quoi ressemblera notre quotidien dans quelques jours? Tous les scénarios sont sur la table, rien n'est exclu, comme l'allongement des vacances de février pour freiner l'épidémie, donc fermer les écoles sont les mots ce matin du porte-parole du gouvernement. Gabriel Attal avait déjà pris la parole hier midi.
Nous envisageons plusieurs scénarios, d'un maintien du cadre actuel avec le couvre-feu à 18h, jusqu'à un confinement très serré.
Mais quel type de confinement? Strict, très serré, light, à chacun ses termes. Gilles Pialoul, chef de service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Tenon à Paris, était l'invité hier soir de Thomas Soto.
Il doit ressembler à celui qui était d'avril, et je pense qu'on va vers quelque chose. Alors après, voilà, c'est
donc école fermée,
fiction,
donc
mais...
boutique fermée.
Oui,
un pays à l'arrêt.
Un pays à l'arrêt, avec une économie qui va encore prendre un coup.
Vos réactions sur la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole. J'en ai marre d'attendre, écrit Sonia. Allez, c'est bon maintenant, il faut prendre une décision. Coup de gueule de Nat, la seule méthode qu'ils connaissent très bien, c'est de nous enfermer. Mais au bout de 10 mois de crise, combien de lits en réanimation ont été créés? C'est le cœur du problème. On ne nous confine pas pour sauver des vies, mais pour sauver des lits. De qui se moque-t-on? Lance encore Sivodule, il serait temps d'exprimer notre ras-le-bol, on nous prive de liberté. Sacré dilemme quand même, rajoute Alex, hein. Laisser les établissements ouverts pour l'économie ou les fermer pour la santé. Et les gens ont raison de s'énerver, hein. Je peux comprendre certains qui souhaitent désobéir, s'énerve Fred. Mathieu, lui, préférerait un confinement comme au mois de mars. Strict, c'est la meilleure solution.
Clément est avec nous, Clément qui est musicien, bonjour.
Bonjour.
Et merci. Vous êtes musicien dans un orchestre?
Oui, voilà, ouais, tout à fait, ou dans plusieurs.
Donc en ce moment, vous êtes à l'arrêt?
Exactement, depuis
donc,
quasiment 10 mois.
Mais vous êtes payé quand même, vous avez
Alors oui, le spectacle a eu là en août dernier une prolongation en fait des droits du chômage quoi.
Mm-hmm.
Donc jusqu'au mois d'août a priori de cet été.
Donc ça c'est une bonne chose.
Sans ressources. Ah ouais non, je considère même que je suis presque privilégié par rapport à certains. Je ne travaille pas quand même depuis mois de mars dernier.
Quel instrument vous jouez ?
Alors moi, je joue de la batterie. Je suis batteur, mais je joue aussi de la basse et du piano dans d'autres formations. Mais à la base, je suis batteur.
Donc le temps vous paraît long ?
Complètement, oui. Tout à fait. Et puis l'angoisse qui arrive aussi, de se dire... l'inertie de toute cette inactivité, ça va pas être récupérable avant un bon moment. Est-ce que on aura de quoi tenir d'ici là, ou voir qu'est-ce qu'il faut faire d'autre pour essayer de repartir sur d'autres choses, se réorienter, voilà.
Est-ce que selon vous c'est la meilleure politique, la meilleure stratégie?
De quoi? Le confinement?
Oui.
Je ne sais pas. En tout cas, je me dis que. Si c'est un moyen de faire baisser l'activité du virus, eh ben on s'y pliera, comme au premier, même si le premier a été pour moi un vrai calvaire. Le seul truc, c'est que d'une manière plus globale, je commence à me dire, on a 10 mois de recul, et je me dis ça commence à faire beaucoup en termes même de pertes économiques, de pays à l'arrêt, pour, entre guillemets, si peu. Dans le sens, alors si peu dans le sens où oui, j'entends que il est très contaminant ce virus. Beaucoup de gens sont contaminés, oui, mais en termes de dangerosité et de pays en guerre, comme on nous l'a annoncé en mars dernier, eh ben moi je me dis ok, d'accord, pays à l'arrêt, pays en guerre. Alors où sont les morts? Est-ce qu'on meurt à tous les coins de rue? L'armée, où est l'armée puisqu'on est en guerre, qui prend en charge, je sais pas moi, des processus sanitaires, voilà. Donc il y a une espèce de grand delta entre ce qu'on fait vivre au pays de manière générale et ce qu'on voit au quotidien dans la rue. Et
c'est pour ça que je vous demande si c'est la bonne stratégie. Et vous dites oui.
Parce que
confinement, il va baisser mécaniquement. Le confinement, il n'y a pas de souci. Il va baisser mécaniquement le nombre de contaminés et il va freiner le virus. C'est incontestable. Ouais. Mmh. Simplement, dès que vous allez ressortir, ça va partir. Bah, c'est stop
ça,
and go.
Mais c'est que je me dis que, bon. Est-ce qu'il faut parler en nombre de contaminés ou en vrai décès, en dangerosité?
Chacun choisit son camp. Moi, ce que je remarque simplement, c'est que depuis un an, toutes ces décisions sont prises. Le peuple français n'est absolument pas associé. C'est ça qui me frappe. Le Parlement est une chambre d'enregistrement et effectivement, vous avez un président de la République, mais c'est la Ve République, hein. La Ve République, elle est comme ça, elle donne tous les pouvoirs au président. Il n'y a pas d'élection avant l'année prochaine, donc toutes ces décisions quand même qui sont lourdes sont prises. Alors on sait un peu avec des sondages, bien sûr, hein, ce que pense un peu l'opinion publique, mais au fond, les Français ne sont pas associés.
Donc après le risque pour le gouvernement, ça va être de le payer après politiquement. J'ai pas de boule de cristal, personne. Mais
au fond, vous trouvez que il n'y a pas vraiment de politique alternative, si je synthétisais ce que vous dites.
Non, effectivement, il y en a pas. Par contre. On est peut-être arrivé en fait à un point de nos retours qui nous oblige à effectivement reconfiner de cette manière. C'est-à-dire que là, visiblement, c'est pas vraiment pour sauver une population qu'on va se protéger du virus, c'est pour en fait désengorger les hôpitaux.
Bien sûr.
Sauf que voilà, les hôpitaux, on les ferme depuis 30 ou 40 ans. Je pense que c'est ce qu'on va payer. On le paye aujourd'hui. Il a fallu plusieurs.
Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y ait pas augmentation de l'accueil à l'hôpital. Mais on vous dira également que si on augmente l'accueil à l'hôpital, mécaniquement, on accepte aussi un plus grand nombre de morts. Et certains ne souhaitent pas qu'il y ait davantage de morts, fût-ce des gens qui ont passé 80 ans. Donc après, là encore, chacun, j'ai envie de dire, choisit son camp. C'est une vraie... c'est des vraies questions de société. Effectivement, on a décidé de sauver des gens qui ont passé 80 ans et peut-être d'hypothéquer l'avenir de gens qui ont 20, 25, 30 ans, 40 ans, et d'hypothéquer également l'avenir économique d'une tête qui va être...
Ça, c'est une conséquence, je pense pas que c'est une cause. C'est-à-dire que c'est un tribut que l'on paye de plusieurs mandats et plusieurs politiques précédentes. C'est-à-dire que...
Pour l'hôpital, vous avez raison, oui. Pour l'hôpital, vous avez raison. Et puis pour la société, elle a changé. Et parce qu'il y a 50 ans, il y avait des épidémies. Il y a eu une épidémie, l'épidémie de Hong Kong, je crois. Et la société n'a pas réagi comme ça. Donc là, c'est la première fois où, effectivement, les sociétés, parce que tout le monde fait à peu près la même chose, hein, disons-le, hein, globalement. Ben merci beaucoup Clément et bon courage à vous. Mais qu'est-ce que vous faites de vos journées alors ?
Eh ben, mine de rien, je m'occupe malgré tout quand même de mes enfants, ce qui n'est pas
négligeable
quand on en a trois.
Ah oui.
J'en ai trois, dont une vraiment en bas âge.
Mmh. Votre épouse travaille ?
Mon épouse travaille, elle est infirmière d'ailleurs.
Mmh. Donc c'est vous qui êtes à la maison.
Donc voilà, c'est exactement ça.
Passe ma journée. J'allais dire c'est la double peine, mais c'était ironique, bien sûr.
Hein. Oui, oui.
Bien sûr.
Il y a un petit peu de ça parfois.
Je blague.
Sinon, je travaille un petit peu quand même à la maison. J'essaie de travailler sur des projets, mais c'est pas évident quand le spectacle vivant était l'essentiel de son activité, quoi.
Bah écoutez, bon courage vraiment, parce que là aussi, on le dit avec Greg Caranoni, chaque jour, nous on a la chance de bosser. Et ça, ça n'a pas de prix. Merci beaucoup, Clément.
Je vous en prie. Merci.
Clément, que je salue justement, et Greg, à qui je dis bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour, monsieur Caranoli.
Donc, c'est la double peine d'être à la maison.
Mais c'était ironique, j'ai dit. C'était pour rigoler.
J'ai sorti la phrase du contexte.
Bah, évidemment, bien sûr. Mais je suis sûr que Clément est ravi de s'occuper matin, midi et soir de ses enfants à la maison et que sa femme travaille. C'est ça, les pères modernes, cher ami.
Je sais.
C'est nouveau. Bien. Voilà.
Vous aimez les papas modernes, alors ?
J'aime tout ce qui est moderne.
Très bien.
À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et Charline est avec nous. Bonjour Charline.
Bonjour Pascal.
Et on parle évidemment du confinement à venir, qui sera peut-être serré, voire très serré, comme le café. Quel est votre sentiment et qu'est-ce que vous souhaitez ? Vous êtes directrice d'un établissement de service à Cholet.
Pour personnes âgées. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que j'en pense ? Ben, ça va être certainement un nouveau contre-coup pour nos anciens, nos seniors. Confinement strict, ça veut certainement dire isolement. Enfin, ça s'associe à de l'isolement. Et du coup, en termes d'impact psychologique, ce sera de nouveau très lourd à supporter.
Mais est-ce que c'est la bonne solution selon vous ?
Bah, je suis pas habilitée à dire si c'est la bonne ou la mauvaise. Après, moi, c'est la façon dont je vais aborder les choses pour nos résidents qui sera, je l'espère, on va l'adapter pour justement faire en sorte que leur confort psychologique soit le mieux supporté possible. Tant qu'on peut leur laisser des libertés, on leur en laissera. Tant qu'on n'est pas touché par le virus, et c'est toujours le cas, nous, dans la structure. Mais voilà, le but, c'est de rester sérieux, protégé, mais de pas les empêcher de faire, puisque sinon, il y a des impacts très très lourds sur leur état de santé mentale.
Mais vous vous refusez d'avoir un avis sur la stratégie du gouvernement ?
A priori, c'est eux qui sont à même de le décider, de prendre les meilleures décisions. Ce qu'on peut déplorer, c'est que les décisions elles arrivent tard, que si on arrive à un troisième confinement si strict tel que c'est indiqué, c'est que c'est un palliatif, il me semble, à des mesures qui n'ont pas pu être prises ou qui n'ont pas été prises avant correctement, ou à des solutions qui n'ont pas été engagées dans les meilleures conditions, notamment la vaccination. Et du coup, on est obligé d'arriver à un confinement parce qu'il me semble qu'on n'a pas fait ce qu'on avait à faire au préalable.
En même temps, le variant anglais, il est nouveau.
Le virus, il a quand même un an.
Oui,
donc on était préparé sur un plan sanitaire, on avait les moyens d'anticiper certainement les choses au niveau de la vaccination. Aujourd'hui, on a les moyens de vacciner. Je suis pas sûr qu'on s'y prenne dans le bon ordre non plus.
On a les moyens de vacciner.
C'est
problématique puisque
là, on a un vaccin qui est beaucoup trop limité, c'est sûr. Mais voilà, si les choses s'étaient engagées un peu plus rapidement dans le temps, ou si des mesures, ou on peut revenir à la mesure du port du masque, on le rend obligatoire en juillet. Certainement, si le port du masque avait été rendu obligatoire dès la fin du premier confinement, on aurait peut-être gagné quelques mois.
Croyez, franchement,
on peut revenir là-dessus. En tout
vous
cas,
croyez,
aujourd'hui...
Écoutez, moi, ce qui me frappe, c'est que tout le monde porte le masque aujourd'hui, tout le monde respecte plus ou moins les mesures barrières, les restaurants sont fermés, les théâtres sont fermés, les cinémas sont fermés, et le virus, il est là. Donc voilà, moi, je veux bien qu'on me raconte ce qu'on veut, mais manifestement, il y a aussi parfois une forme de... Faut accepter ce que nous sommes. Nous les hommes, pas grand-chose, hélas, face à quelque chose qui est parfois plus fort que toi, comme dit l'autre. Et le virus, il est plus fort que toi.
Et on en subit aujourd'hui les conséquences. Alors, il y a l'aspect économique que vous avez abordé tout à l'heure. Il y a l'aspect santé mentale et physique. Et là, pour mon cas et pour le cas des résidents, c'est là où c'est vraiment difficile. C'est que... Il y a vraiment des impacts, des conséquences, des séquelles qui sont lourdes, dont on ne mesure pas encore toute l'ampleur, à mon avis, aujourd'hui. Et c'est ce qui peut, en tant que professionnel, nous faire peur aujourd'hui, parce qu'un troisième confinement, on revient dans l'isolement, on revient dans des manques de stimulation intellectuelle et physique. Voilà, alors qui est confinement ou pas, nous, ma façon d'aborder les choses en interne pour les résidents, c'est de leur autoriser le maximum que je puisse, tout en respectant les gestes barrières, le masque, le port du masque, etc. Mais on peut pas tout arrêter non plus. comme ça.
Bah, et pourtant, on va tout arrêter sans doute, mais c'est absolument fascinant à quasiment un an de distance. On va peut-être prendre exactement la même mesure, sauf que l'année dernière, tout était ouvert. Quand on a pris cette mesure, absolument tout était ouvert. Et là, tout est fermé. Donc, mais on prend la même mesure. Donc, c'est vous dire, quand même. Et on est quasiment au même stade avec les mêmes chiffres. Donc, tout ça me fascine. Merci beaucoup, chère Arline.
Avec plaisir. Avec
merci.
Plaisir, Pascal. Bonne journée.
Julien, chef d'entreprise. Bonjour. Jeune chef d'entreprise de 28 ans à Besançon, dans le Doubs.
Bonjour, Pascal.
Là où est né Victor Hugo. Bonjour, Julien.
Oui. Bonjour. Cher Pascal, j'ai eu la chance d'avoir un coup de téléphone de votre standardiste pour exprimer un peu la situation d'un chef d'entreprise. Il m'a demandé d'évoquer un peu tout ça. C'est comme on a bien parlé au début de vos interviews, c'est vrai que le monsieur exprime, comme vous l'avez dit, un sentiment surtout de colère mais de tristesse. Et c'est un peu ça en fait, si vous voulez, c'est que aujourd'hui, moi j'ai repris une société qui a été créée par mon arrière-grand-père. Et je peux vous dire que chaque matin, quand vous savez pas ce que va être fait la semaine d'après.
Vous êtes dans quelle activité? Quel secteur?
On est dans l'horlogerie.
Combien de personnes vous avez dans l'entreprise?
On est 14 actuellement dans la structure. On a déjà perdu 2 personnes depuis le début de la crise.
C'est-à-dire que vous avez été obligé de les licencier?
Oui.
Donc, et alors, dans l'horlogerie, vous faites quoi? Vous faites.
On fait de la réparation, principalement du service après-vente. Et puis, on a notre propre marque qui porte notre nom, un Berdreau de Montre. Qu'on a développé depuis 4 ans pour les 60 ans de l'entreprise.
Voilà. Et donc, évidemment, vous avez des pas de porte. Donc, les gens,
oui,
c'est des commerces. Enfin, forcément, les gens entrent dans votre boutique.
On a des revendeurs, nous, mais on a un atelier. On n'a pas notre boutique à nous. Mm-hmm. On a un atelier vraiment de réparation. Donc, on n'a pas vraiment de personnes qui viennent, même s'il y a quelques personnes qui se déplacent. Par contre, on travaille énormément en partenariat avec les bijoutiers et puis les horlogers dans toute la France. Et on a été, comme on fait beaucoup de services après-vente pour des grandes marques, on a été impacté 2 fois déjà par les fermetures des bijouteries, puisque ben, forcément, s'il n'y a pas de montre à réparer qui arrive, on n'a pas de travail. Donc, on ne sait pas. Aujourd'hui, ce qui est malheureux, c'est qu'en fait, vos salariés, ce qui est légitime, hein, vous demandent à peu près les horaires qu'ils vont faire la semaine d'après, mais vous ne savez pas quoi leur dire. C'est ça qui est malheureux, en fait. Alors, je sais bien que la position du gouvernement n'est pas simple. Hein, et d'ailleurs... La petite parenthèse, c'est que je trouve assez aberrant que les politiques qui sont opposées à la République En Marche, j'y suis moi-même pas, hein, mais je veux dire, passent leur temps à critiquer plutôt que je pense que l'union ferait plutôt la force. Et au même titre que les élus locaux d'ailleurs, moi je trouve ça aussi terrible que dans ces moments-là où nous, chefs d'entreprise, on a quand même des vies à avoir entre les mains, puisque vous avez des salariés, il faut leur dire quelque chose, il y a des familles derrière. Et vous les trouvez jamais, en fait. Ces élus locaux là, ils sont complètement absents. C'est-à-dire qu'on a des députés, on a des sénateurs dans le coin. Vous les voyez effectivement visiter l'entreprise quand il y a des élections. Ça, c'est sûr qu'ils sont là. Par contre, pour venir nous soutenir ou venir nous dire, écoute, voilà ce qui est en train de se passer à l'Assemblée, voilà ce qui va peut-être être décidé, plutôt que de nous-mêmes attendre 20h le soir, qu'il y ait des allocutions, je trouve ça un peu aberrant, quoi.
Alors, ben merci Julien, merci aussi de ce témoignage tout en nuance celui-là et effectivement tout en compréhension. Merci, puis bon courage à vous effectivement pour votre entreprise. Il est 13h28 la pub.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et Laurent Tessier, je découvre un peu les réseaux sociaux. Certains en ont marre qu'on parle du Covid. Alors je suis ennuyé parce qu'en même temps, les gens nous appellent pour en parler. Mais il y a un message qui est arrivé, ras-le-bol du Covid et vive l'interdiction faite aux deux roues de remonter la file. C'est un sujet ça par exemple qu'on pourrait imaginer traiter dans les auditeurs?
Vous pouvez nous appeler dès maintenant pour réagir. Vous êtes motard, vous êtes automobiliste aussi. N'hésitez pas à nous appeler dès maintenant au 3210.
Alors je ne sais pas qui a envoyé cela parce que c'était un compte anonyme. Vive l'interdiction faite aux deux roues de remonter la file. Et sur ce compte, il ajoute « Et maintenant, faut s'attaquer aux vélos qui grillent les feux rouges ».
Ça, c'est un bon sujet.
Vous pensez ?
C'est un bon sujet. D'ici 14h30, nous pourrons le traiter.
Bah écoutez,
c'est un défi.
En tout cas, je salue cet auditeur anonyme.
Accepteriez-vous un confinement très serré ? Eh bien, face à cette éventualité, les appels à la désobéissance civile se multiplient sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, le hashtag « Je ne me reconfinerai pas » est mis en avant. Est-ce que c'est votre cas ? Un restaurateur niçois a ouvert son établissement hier midi en dépit de l'interdiction. Il a été placé en garde à vue dans la soirée car son cuisinier est en situation irrégulière. Notre correspondant, Mickaël Lefebvre, l'avait rencontré juste avant.
C'est plus possible, monsieur. C'est plus possible. C'est insoutenable. Les drames sont trop présents dans nos vies tous les jours, là. C'est aussi également pour faire un pied de nez, pour exercer mon droit de citoyen, ce droit à la désobéissance. Et comme je dis, je suis un résistant. Là, on est en mode survie, on est des zombies et il faut tout simplement qu'on retrouve cette envie de vivre et cette envie de travailler pour nous tous.
Comprenez-vous ce restaurateur, cette réouverture hier midi est-elle pour vous inconsciente? 32-10. Une enquête administrative a été ouverte après l'organisation d'un pot de départ le 22 janvier la semaine dernière au commissariat d'Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Une vidéo montre au moins une dizaine de personnes chanter et danser sans masque, sans respect des gestes barrières. Ce pot de départ d'une lieutenante a largement dépassé l'heure du couvre-feu. Des sanctions seront prises contre les policiers. Vous êtes choqués par cette scène. 32-10, nous attendons vos appels dès maintenant.
Oui, mais ce qui est terrible, c'est qu'on entre dans une société de surveillance et de délation. C'est-à-dire qu'on est là en train... Moi, j'ai pas voulu, par exemple, traiter ça ce matin à la télévision, parce que je trouve que c'est... On est vraiment maintenant dans la délation. Ça. Regardez ce qu'a fait machin. Regardez ce qu'il a fait. Bon, c'est une drôle de société, quand même, qu'on va bâtir. Sébastien est là. Bonjour Sébastien.
Oui, bonjour.
Vous êtes SDF, Sébastien ?
Oui, c'est ça.
Bah écoutez, d'abord, merci de nous appeler, parce que j'imagine que ce n'est pas facile, lorsqu'on est dans la rue, de témoigner comme cela, comme vous allez le faire.
Bah, disons que pour nous, c'est compliqué, parce qu'ils ont fermé tous les points d'eau. Ils ont fermé, moi personnellement j'ai pas d'électricité, j'ai pas d'eau, j'ai rien. On est obligé de faire la manche pour pouvoir manger. Et le problème c'est que c'est surtout le soir où on arrive à avoir un peu de sous, à la sortie des bureaux et tout ça, mais là maintenant, vu les horaires, maintenant c'est compliqué.
Mais vous êtes dans la rue, Stéphane ? Sébastien ? Vous êtes dans la rue ?
Oui, je suis dans la rue. Et je suis pas le seul dans le coin.
Et vous n'avez aucune possibilité d'aide ?
Aucune.
Et l'État prend en charge ou prend en compte votre situation ?
Moi, je n'ai le droit à rien.
Mais pourquoi vous n'avez le droit à rien ?
Parce que, j'avais déjà une situation professionnelle qui était déjà bien, qui était belle, on va dire. Bon, j'ai perdu mon emploi.
Il y a combien de temps ?
Il y a 2 ans maintenant.
Donc, il y a 2 ans, vous étiez dans un appartement ou dans une maison, peut-être, avec une vie, j'allais dire, normale.
J'étais marié, j'ai divorcé, ça, c'est des choses qui arrivent, malheureusement. Et puis, voilà.
Et vous êtes aujourd'hui dans la rue 2 ans plus tard.
Voilà.
Mais quand vous avez été licencié, sans doute, ou quand vous avez perdu votre job, vous avez eu une assurance chômage ?
Et non, justement, c'est parce que ça a été fait pour une faute professionnelle.
Donc vous n'avez rien touché ?
Voilà, je ne touche rien, mis à part le RSA.
Le RSA, on peut rappeler d'ailleurs, c'est moins de 800 euros par mois.
Ah tu ne touches même pas 500 euros. Donc ça me permet juste de quoi me chauffer et légèrement manger, quoi.
Quand vous dites, mais comment vous vous chauffez si vous êtes dans la rue, Sébastien ?
On se débrouille. Hein. J'ai mon petit brûleur à gaz. Je prends mon petit réchaud. Enfin, je me suis fabriqué un petit réchaud.
Mais pardonnez-moi de poser des questions. Et je sais que c'est des questions que je ne poserais même pas dans la vie si on se voyait. Et on est toujours plus indélicat et plus indiscret professionnellement que personnellement, mais vous n'avez pas d'amis, vous n'avez pas de famille, vous n'avez pas d'enfants qui puissent vous aider ?
Mes enfants ne sont pas ici, je ne les vois plus depuis quelques années, parce que depuis mon divorce, ils sont partis avec leur mère, et je n'ai pas de nouvelles depuis 7 ans maintenant. Sachant que sa mère a repris sa situation, et puis...
Bon, et vous n'avez pas d'amis qui puissent...
On se débrouille entre copains, quoi.
Vous étiez dans quel secteur d'activité, Sébastien ?
Moi, j'étais chauffeur routier.
Écoutez, c'est toujours poignant, là aussi, de vous entendre, parce que vous êtes jeune, vous avez 45 ans.
Oui.
Et aujourd'hui, j'imagine, lorsqu'on est SDF, pour retrouver un job...
Il faut déjà que je repasse mon permis, donc déjà, il faudrait qu'il y ait des sous.
tout simplement.
Parce qu'en plus, votre permis, vous avez été retiré.
Voilà.
Et c'était sans doute ça ce qui était à l'origine de la faute professionnelle, j'imagine, je crois.
Voilà. Alors, étant chauffeur routier, sans permis, c'est compliqué.
Oui. Et vous avez sans doute fait une bêtise, et cette bêtise, vous la payez au prix cher aujourd'hui.
Là, je la paye au prix fort.
Ouais. Sébastien, j'imagine que la situation n'est pas simple. J'imagine, parce que effectivement, faut se remettre dans le circuit.
Quand on fait, moi personnellement, je veux m'en sortir. Mais quand on fait la manche et puis qu'on nous interdit à partir de telle heure, c'est là qu'on gagne le plus.
Non, mais au-delà de cette période-là, faut avoir peut-être pour vous un objectif de réinsertion ou de retrouver le circuit le plus traditionnel, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, manifestement.
Bah oui, c'est beaucoup plus difficile. C'est ça le problème.
Oui. Merci Sébastien de votre témoignage, parce que c'est on a envie de vous aider forcément, et quand on entend un témoignage comme celui-là, on dit qu'est-ce qui fait, et vous l'avez expliqué, qu'on peut basculer, et la vérité c'est que chacun de nous peut basculer peut-être plus vite qu'il ne le pense, Sébastien.
Bah oui, c'est pour ça, on écoute, comme je vous écoute tous les jours, donc à un moment je me suis dit, il va falloir que j'appelle.
Écoutez, moi je ne sais pas si votre message a été entendu, si certains qui sont employeurs nous écoutent. Dans ces cas-là, évidemment, on fera passer votre téléphone, Sébastien, bien évidemment, puisque si on peut être utile d'une manière ou d'une autre, nous le ferons. Merci beaucoup, Sébastien.
Bah de rien, c'est moi qui vous remercie.
Bah non, c'est merci de votre témoignage. Il est 13h39, on va marquer une nouvelle pause. A tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Et Laurent Tessier, donc.
Un sondage Harris Interactive non publié place Marine Le Pen au coude à coude avec Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle de 2022. 52% d'intention de vote pour le chef de l'État, 48% pour la présidente du Rassemblement National. Marine Le Pen peut-elle remporter l'élection? Donnez-nous votre avis au 3210. C'est l'anniversaire aujourd'hui de Nicolas Sarkozy.
Non.
Si vous avez, si vous avez un message à lui faire passer.
Je reviens.
C'est Garou qui chante.
Attention, ne nous engagerons pas.
Aimeriez-vous qu'il revienne, Pascal Praud,
alors peut-être qu'on peut passer une autre chanson où il ne revient pas. Équilibrons.
On passera la prochaine. N'hésitez pas à nous appeler au 3210.
Je suis venu te dire que je m'en vais.
Rouler à moto ou en scooter entre les files de voitures sera interdit à partir du 1er février. Alors depuis 2016, c'était autorisé à titre expérimental.
Oui.
En Ile-de-France, dans le département du Rhône, les Bouches-du-Rhône et la Gironde. Mais le bilan n'est pas bon, les accidents de roues ont augmenté de 12%. Un nouveau test sera lancé dans les semaines qui viennent. Donc nous attendons les motards au 3210. Automobilistes, vous vous félicitez de cette décision, appelez-nous dès maintenant.
Alors pour contrebalancer, parce qu'on ne veut pas apparaître comme un soutien à Nicolas Sarkozy, une autre chanson.
Je suis venu te dire que je m'en vais.
Tout se fait en direct, hein.
Et que nous ne pourrons rien changer. Vous savez qu'on va célébrer le 30e anniversaire de la mort de Gainsbourg. Vous vous rendez compte? C'était en mars 91.
Formidable. L'occasion
et
d'écouter
et plein de... Et 30 ans sont passés, mais moi je me souviens encore où j'étais quand j'ai appris sa mort.
Où étiez-vous?
J'étais dans la rue Montorgueil, j'étais. C'est fou, hein? Il y a 30 ans. Ces 30 ans sont passés chou, comme ça.
Quel bruitage.
Non, j'avais marre de parler du Covid, donc dès que je peux m'évader...
vous avez fait une projection à 2 mois, oui.
Et parler d'autre chose, je le fais. C'est parti. Nous sommes avec Serge, qui est gérant d'auto-école et qui habite Cherbourg. Bonjour Serge.
Bonjour.
On va encore parler du reconfinement, déconfinement.
Eh oui, encore une fois. Donc là, on nous annonce un troisième reconfinement. Donc moi, j'ai rien contre. Je dirais même bien au contraire, parce que on est en contact rapproché avec des jeunes en permanence. Donc j'ai déjà eu une salariée arrêtée pendant une semaine parce qu'elle était qu'à contact d'une élève qui était positive. Et donc c'est extrêmement compliqué à gérer puisque il s'est avéré qu'elle n'a pas été malade, puisqu'on a des protocoles qui sont faits justement avec du virucide, avec du gel hydro, avec les masques, avec tout ce qu'il faut. Et depuis le mois de mai, on fonctionne comme ça. Donc ça prouve que ça fonctionne bien, hein, puisqu'elle a fait 2 heures avec une élève qui était positive. Et... si vous voulez, ce qu'on voudrait, c'est un confinement. Enfin, en tout cas, je parle pour moi, excusez-moi. Hein, un confinement, mais façon premier confinement, c'est-à-dire quelque chose de clair et précis, parce que le cafouillage du deuxième confinement où on était fermé pour les cours, on était fermé pour les inscriptions, pour le code, pour tout ça, mais par contre les examens étaient autorisés, donc on était en fermeture administrative ou pas selon les départements, enfin, c'était un bazar sans nom, c'était de l'improvisation totale, ça c'est pas possible. Alors si on me dit, comme au mois de mars, vous êtes fermé et puis vous êtes en fermeture administrative, et je le comprendrais, parce que là il faut faire quelque chose, hein. Je suis dans la Manche, on n'a pas été trop touché, mais là les chiffres explosent, je le comprendrais parfaitement, mais par contre il faut des décisions claires, nettes et précises, qui soient logiques.
Mais elles le sont toujours, claires, nettes et précises, les décisions.
Non.
Pourquoi vous dites ça?
Mais parce que quand je vous ai appelé au mois de novembre pour le deuxième confinement, vous m'aviez dit même un enfant de 5 ans comprendrait que c'est pas logique, puisque on avait le droit uniquement de faire passer les permis, mais on n'avait plus le droit de former les jeunes, on n'avait plus le droit de leur faire le code et tout ça. Donc me dites pas que c'est logique, que c'est pédagogique.
Non,
c'est
non, j'ai dit qu'elles sont toujours claires, les décisions. Non. Simplement, elles sont pas forcément cohérentes, ce qui est.
Ah, ouais, enfin, si vous voulez, on peut venir là-dessus. Mais voilà quoi, il faut.
Mais on comprend ce qu'ils veulent faire. Ils veulent prendre aucun risque. De toute façon, c'est simple. Tu as un gouvernement qui ne prend aucun risque. Bon, tu fermes tout.
Ils prennent aucun risque, mais par contre, ils ferment tout, voilà. Ils mettent les aides qu'il faut, parce que sinon, nos entreprises ne supporteront pas.
Mais très bien, on peut payer pendant 50 ans. Hein. Et puis l'année prochaine, il y aura un autre variant.
Sûrement.
De toute façon, là, visiblement. Alors après, il faut espérer que, comme en Israël, c'est la seule bonne nouvelle qu'il y a en ce moment, c'est Israël. Israël, la seule bonne nouvelle, c'est que l'âge des personnes qui entrent en hospitalisation et en réa et le nombre a baissé.
Oui.
L'âge a diminué et le nombre a baissé.
Pour les Israéliens, pour les Palestiniens qui sont en prison, qui ne sont pas vaccinés. Ça aussi, on peut en parler.
Oui,
enfin, c'est pas le sujet.
Oui, Serge. Je parle de l'efficacité du vaccin. Je ne parle pas politique, là, en tout cas politique israélienne.
Mais
l'efficacité du vaccin démontre plus exactement que si une large majorité de personnes sont vaccinées, en l'occurrence il y a 35% de vaccinés en Israël, à ce moment-là, tu diminues de moitié le nombre de patients en réanimation. C'est ce qui se passe en
D'accord.
Israël. Donc
Et
ça,
ben,
c'est quand
parlait,
même positif.
On parlait de choses claires. Moi, j'ai un double risque, puisque j'ai une obésité morbide et j'ai du diabète. J'ai 54 ans, je demande à être vacciné. Et on me dit, ben non, vous n'avez pas 75 ans, vous ne pouvez pas être vacciné.
Ben, c'est une erreur. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire?
Ben oui, si je meurs là dans les mois qui viennent parce que je suis pas vacciné, ben ce sera merci l'État, parce que les décisions ont fait que ben non, on vaccine les gens.
Mais c'est pas que merci l'État d'ailleurs, c'est parce que l'Europe. Enfin bref, c'est tellement compliqué. Tu t'aperçois que les Anglais qui ont pu organiser leur vaccination seuls sont mieux que nous qui passons par l'Union européenne. Donc à l'arrivée, l'Union européenne n'aura pas été efficace non plus dans cette
proposition de vaccin. Mes deux fils sont jeunes filles au pair en Angleterre. Franchement, je ne suis pas sûr qu'ils soient mieux.
Bah, ils sont mieux en termes de personnes vaccinées, ça c'est factuel.
Ouais, mais ils ont 100 000 morts. Et ils portent pas le masque. Donc, alors ceci dit, par contre, la différence avec l'Angleterre, et je vous rejoins là-dessus, c'est que le Premier ministre s'est excusé pour les 100 000 morts, alors que nous, on nous traite de procureurs. On nous qualifie de procureurs. Donc la différence est importante. Vous avez raison, entre l'Angleterre et la France.
Bah, bon courage en tout cas, Serge, parce que je sens c'est compliqué forcément.
Bah oui, c'est compliqué.
C'est compliqué.
Si c'est clair, c'est pas compliqué. Si c'est clair, c'est simple. Et même pour notre clientèle, elle ne comprend pas des décisions de l'État qu'on n'est pas capable de leur expliquer. Parce que, voilà. Là, par exemple, imaginez-vous, on est fermé à 18h pour le public, mais on a le droit de faire des cours jusqu'à 20h. Alors moi, je m'en félicite, c'est bien, parce que c'est important. Mais,
c'est-à-dire, bah, vous voilà, avez le droit de faire des courses. Qu'est-ce que vous appelez des courses?
On a le droit de faire des cours de conduite.
Ah, des cours?
Des cours de conduite jusqu'à 20h.
Mais c'est-à-dire que vous avez le droit de faire des cours avec donc des élèves?
Oui. Oui, oui.
Oui, ça c'est étrange.
Alors, on s'en plaint pas puisque c'est plutôt dans notre sens.
Donc, donc les gens n'ont pas le droit de sortir. Mais alors, celui qui vient faire un cours, il produit une attestation.
Attestation, case numéro 1, entre le domicile et le centre de formation, et mes salariés ont les attestations professionnelles. Alors ça, bon,
ils ont été arrêtés parce que j'ai l'impression qu'il n'y a aucun contrôle maintenant.
Non, il n'y a aucun contrôle.
Ouais. J'ai jamais vu dans le deuxième confinement un seul contrôle.
Au premier confinement, il y a eu des contrôles. Là, il n'y en a pas du tout.
Mais là, j'ai l'impression que s'il reconfine dur, il va avoir des contrôles, je vous le dis.
Évidemment. Parce que là, effectivement, les gens n'auront rien à faire sur la route. Mais un reconfinement, c'est obligatoire, à mon avis. Hein. Et il faut un reconfinement dur. Parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Mais vous avez raison, c'est le vaccin la solution. Mais le problème, c'est que nous les donne au compte-gouttes. Et moi, tel que c'est parti, j'aurai le temps de mourir avant d'être vacciné en 2040.
Non, arrêtez. Arrêtez. Serge, ne dites pas
Serge. Mais c'est pas grave.
Non, c'est. Gilles, c'est le suivant. J'anticipais. Mais Serge, ne dites pas ça.
Bah non, je dis pas ça, mais voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie pour.
Merci
pour
à Cherbourg.
La parole.
Merci. Au revoir, merci, Pascal. Merci, et prenez bien soin de vous. Gilles est là, justement. Gilles, bonjour. Alors, Gilles, vous habitez dans le Puy-de-Dôme, et je vais dire votre âge parce que c'est important. Vous avez 85 ans.
Oui, monsieur Pro, quel bonheur de vous entendre.
Bah, c'est moi, je suis très content. Moi, j'aime bien vous entendre aussi, Gilles.
Bon, voilà, j'ai un peu choqué votre charmant standardiste en lui disant que j'étais prêt à donner ma vie pour sauver les jeunes. Et effectivement, on fait une fixation depuis déjà pas mal de mois, d'ailleurs, sur les vieux de plus de 70 ans. Mais réfléchissez un petit peu, monsieur, nous avons vécu à 80 ans et 85 ans ou plus. On a plus que vécu, on a été heureux de vivre. Mais maintenant, ce qui nous désole, c'est de voir qu'on s'occupe de nous, et tous les étudiants... Pas de problème, on ne s'occupe pas d'eux, ça n'a aucune importance. On sacrifie une génération, mais ça c'est très bien. C'est un manque de réflexion de la part des gouvernants et surtout un manque de courage de dire que les vieux ont vécu. Et bon, il faut un petit peu les oublier, hein. Tant pis si on meurt. Bon, écoutez, allons, soyons raisonnables. Qu'en pensez-vous?
Bah, écoutez, je suis surpris de votre lucidité. Vous êtes en retraite, bien sûr, à 85 ans. Qu'est-ce que vous faisiez dans la vie, Gilles?
Ça fait 20 ans que je suis à la retraite, donc on a profité de la retraite.
Vous faisiez quoi dans la vie?
Les gens ont profité de la retraite.
Vous faisiez quoi dans la vie professionnelle,
Alors, Gilles? J'ai eu trois métiers. J'ai vendu des stylos, j'ai vendu des fenêtres et j'ai vendu des maisons. Voilà, mes trois métiers. Je fais court pour ne pas vous raconter toute une histoire.
Vous êtes un vendeur?
Non, j'étais un chef d'entreprise.
Bah, c'est parce
Mais attendant de vendeur, disons.
Bah oui, parce que vous êtes un bon vendeur même, Gilles. Je vais vous dire, parce que je vois au son de votre voix le séducteur qui est en vous qu'on retrouve parfois chez les vendeurs. Je les connais, les vendeurs. Ils sont doués.
Non, mais c'est pas.
Plein
c'est
d'empathie.
Pas ça,
Mais non, mais Gilles, ce que vous dites, mais vous êtes, par exemple, vous, on entend la couleur de votre voix, vous êtes en plus en pleine forme, j'imagine.
Écoutez, alors là, la vie est très injuste. Hein. Il y en a qui viennent en pleine forme à 80, à 85, d'autres à 90. Et il y en a malheureusement qui disparaissent à 30, 40, 50 ans. Mais ça, on ne peut rien y faire. C'est la vie. Et il faut admettre certaines choses dans la vie.
Mais vous êtes en pleine forme.
L'objectif, mais bien sûr, mais mon objectif, monsieur, est à court terme. Moi, je ne fais pas des projets à 20 ans aujourd'hui. Je fais des projets. Ah bah tiens, qu'est-ce que je vais faire demain, après-demain, peut-être la semaine prochaine. Et puis chaque jour, comme disait le philosophe, carpe diem. Hein.
Mais non, mais j'ai envie de prolonger cette discussion, Gilles.
Parce mais on que peut je prolonger, pense, cher monsieur.
Je pense, peut, moi, je pense que les auditeurs vont beaucoup vous aimer, Gilles.
Ah,
et que,
pas,
et qu'à la fin de la discussion, on sera content d'avoir entendu quelqu'un de 85 ans.
Ben écoutez, j'en suis ravi, mais...
Mais qu'est-ce que vous avez fait, par exemple, ce matin quel a été votre emploi du temps depuis ce matin?
Ben écoutez, ce matin, alors, bon, c'est pas très drôle, mais j'ai accompagné ma femme à un examen cardiologique. Donc, avant, j'avais fait une heure de guitare, parce que j'ai beaucoup joué de la guitare classique. Et puis, cet après-midi, ben, j'ai rencontré quelques copains qui n'ont pas peur du Covid et qui disent, eh bien, on verra bien, hein. On a vécu, on a profité de la vie, mais qu'on s'occupe des jeunes, par pitié, qu'on s'occupe d'eux. Aïe, 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 aïe.
Oh, qu'est-ce que j'aimerais vous avoir dans ce studio, Gilles, parce que vous êtes
quand
un
vous
bonheur.
Voudrez, monsieur. Vous quand êtes... vous voudrez, parce que je vous ai appelé de nombreuses fois et j'ai eu des...
C'est vrai? Ah non, mais
oui,
moi...
oh là là.
Ah non, mais en fait, il faudrait que des gens comme vous témoignent plus souvent. Vous vous rendez compte de tout ce que vous venez de dire? La vie qui est la vôtre aujourd'hui, guitare, copain, femme et de ça. Vous êtes vivant, ah, Gilles.
Femmes, oui, mais enfin, les femmes, le sexe s'est un peu calmé, vous savez. Comme on dit chez moi, on a atteint la paix du pantalon. C'est ce que je veux dire.
Ah bon? Mais ça, c'est un sujet tabou, je ne l'aborde jamais. Je ne sais jamais ce qui se passe. Aujourd'hui, en plus...
C'est... Non, mais bon.
Aujourd'hui, il y a des façons, en plus, de faire qui sont efficaces.
Bien sûr, non mais bien sûr, non, c'est pas ma préoccupation majeure.
Bon.
Vous savez, j'ai 6 enfants et 15 petits-enfants, alors là, croyez-moi, il y a de quoi m'occuper avec
et ça. Et ben, vous voyez, tout, mais vous voyez, cette vie a été remplie, Gilles.
Ah oui, totalement.
Bon.
Et c'est une chance. Mais alors aujourd'hui, j'estime que je fais du bonus, mais que ce bonus ne soit pas au détriment des jeunes, une nouvelle fois.
Bon, et vos potes, cet après-midi, vous faites quoi avec?
Ça va faire un peu ringard, on va jouer au bridge.
Vous êtes combien autour? Vous êtes combien à jouer au bridge?
On est quatre, je crois.
Bon, c'est quatre bons hommes, si j'ose dire, ou il y a des femmes?
Non, il y a une femme au milieu des quatre bons hommes. Vous voyez, on les a pas tous tués.
Et le bridge, c'est une fois par semaine?
Oui, à peu près, oui, voilà. C'est une habitude qu'on a depuis des années. Donc, on s'était interrompu là pendant quelques temps, et puis maintenant, on a repris, et ad vitam, et voilà, carpe diem. Bon, si on nous confine, attends, il y a déjà, les gens sont plus âgés, sont soit chez eux, ils ont la chance, ceux-là, soit en EHPAD. En EHPAD, ils sont très bien soignés, ils sont suivis, on leur fout la paix.
Oh, oui, mais bon, c'est vrai que vous avez... Alors, vous conduisez, par exemple, toujours?
Écoutez, quand vous m'avez appelé, j'ai dû m'arrêter parce que je partais justement. Vous savez, je fais 30 000 km par an en retraite et j'en faisais 60 000 quand j'étais vivant. Alors, bon.
Ah, Gilles, je vous assure, vous faites ma joie. Vous ne pouvez pas savoir comme vous faites ma joie. 85, c'est-à-dire que vous êtes né en 36.
En 36, c'est vous dire que j'ai vu.
Belle année, 36. Attention, 36, très belle année. Philippe Solers est 36, Philippe Labro de 36. Il y a plein de gens de 36.
Ah oui. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que je suis né en plein front populaire, au milieu des premiers congés payés, ce qui m'a beaucoup marqué parce que j'ai jamais été courageux, bien que je sois obligé de travailler.
Bah écoutez, j'ai demandé à Greg Caranoni, parce qu'en fait, on a l'impression de parler avec notre père ou notre grand-père, Gilles. C'est ça.
Un petit peu, oui.
Mais oui, et puis.
Mais
non, mais les vendeurs, j'ai. Mais et puis les vendeurs, je les reconnais à.
Oui, mais le problème
je
aussi
les reconnais
âge,
à 100 mètres, les vendeurs. Je ne sais pas pourquoi.
Vous savez, on a tellement vécu et j'ai vécu tellement de choses intenses, parce que j'ai quand même fait traverser quelque chose d'intense dans ma vie, qu'on a une certaine vision des choses et de la société, et sans vouloir être jouer les grands, surtout pas. Hein. Mais ce qu'on a vécu, ça nous a marqué aussi. Hein.
Ben merci, Gilles. Et vous êtes marié depuis combien de temps?
Écoutez, je suis marié depuis 64, faites le 63, pardon, faites le calcul.
1963, donc ça fait 57,
pas mal, hein.
58 ans passés. Ouais. 58 ans passés. Bah, c'est bien.
Pas mal.
Ah, bah oui, 58 ans, c'est.
Moi, je m'étonne, voyez-vous, là, je me suis toujours étonné parce que je pensais jamais être capable.
Et elle est en forme, votre femme, elle est comme vous?
Ma femme est une femme charmante, adorable, dévouée. Et on a fait un choix, nous. Alors, on a fait un choix dans notre ménage. C'était d'élever nos enfants. Ma femme a élevé nos enfants. Oui. Et moi, je travaillais.
Bah, ah oui, mais alors, vous êtes gonflé parce qu'elle a travaillé 6 enfants. Alors là, elle a travaillé 6 enfants.
Était,
c'est
elle était plus que
c'est un boulot.
Croyez-moi, bon. La semaine de 35.
Ah, ça a coupé. Gilles. Il est parti, Gilles. Ah, quel dommage. Gilles, ça a coupé. Bon, on a une petite chanson du Front Populaire 1936. Ça vient de couper.
Ça au bord de l'eau, au trémolo des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux.
Il y a 30 minutes, vous disiez que vous aimiez la modernité, non?
Ben oui, non, mais vous êtes pas. Est-ce que vous êtes séduit par Gilles?
Très.
Mais évidemment. Ah, Gilles est revenu. Gilles?
Oui, il est là, il est là.
Gilles, j'ai mis du Jean Gabin, puisque vous êtes né en 36.
Pour découvrir des merveilles. Ah, moi, ça me fait mal au cœur.
Non, mais attendez, moi, j'ai vécu avec mon... ma jeunesse, c'est Brel, c'est Brassens, c'est Aznavour.
Exactement,
c'est
exactement.
C'est ces gars-là, hein.
J'ai demandé comment elle s'appelait, votre épouse?
Marie-Ange.
Marie-Ange.
Et croyez-moi, c'est une femme exceptionnelle.
Bon, et Gilles, vraiment, alors appelez-nous, on a tellement besoin de...
Mon pauvre, j'ai appelé plusieurs fois.
Mais je sais, c'est difficile de nous avoir. Mais on va garder votre téléphone. On va garder votre téléphone et puis on va essayer de vous faire témoigner parce qu'on a besoin comme ça de fraîcheur. Bien sûr, et puis
vous écoute tous les jours.
Bah c'est vraiment gentil, Gilles. Vraiment, c'est super, et merci de votre témoignage. J'ai passé un super moment.
Quand vous voulez.
Et je suis sûr, les auditeurs avec.
Je vous remercie de ces mots très gentils. Bon courage à vous.
On vous salue. 13h38, Olivier Bois, dans une seconde.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Il est 14h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Les motards ne pourront plus remonter les fils de voiture. Nous sommes avec Thierry en Charente, qui est motard. Vous comprenez cette décision ?
Oui, Pascal. À défaut de me faire des ennemis parmi les copains motards, je la comprends.
On en parle dans une seconde, Olivier Bois.
Il est trop tôt pour lâcher du lest face à l'épidémie. C'est l'Organisation mondiale de la santé qui le dit, alors qu'Emmanuel Macron se laisse encore jusqu'au week-end pour trancher. Si un reconfinement semble inéluctable, il peut y avoir différentes modalités plus ou moins strictes, notamment sur les fermetures des établissements scolaires temporaires, qui pourraient être l'une des mesures envisagées. La campagne de vaccination prend du retard dans les Hauts-de-France. Tous les rendez-vous prévus d'ici mardi prochain sont reportés au mois de mars pour cause de pénurie. Les autorités sanitaires vont garder le stock pour privilégier les injections des secondes doses pour ceux qui ont déjà reçu les premières. À propos des vaccins, une nouvelle rassurante selon Pfizer et BioNTech, leurs vaccins gardent l'essentiel selon eux de leur efficacité contre les variants britanniques et sud-africains. Dans le reste de l'actualité, un homme de 45 ans a tué ce matin à Valence une employée de Pôle emploi dans son agence et un peu plus tard, à quelques kilomètres de là, une responsable des ressources humaines dans une entreprise au sein de laquelle il avait travaillé par le passé. Il a été interpellé et placé en garde à vue. Le handball est coup dur pour les Bleus qui affrontent demain la Suède en demi-finale du Mondial. Deux joueurs majeurs sont blessés, l'arrière-gauche Timothée Nguessan et le pivot Luka Karabatic. Ils devraient être forfaits selon le médecin de l'équipe de France. Le temps demain matin, du soleil sur l'ouest de Brest à Bordeaux ainsi que sur l'île de France, de rares averses dans le nord et les températures seront toujours douces entre 9 et 15 degrés du nord au sud. Et puis le quintet à Vincennes à l'instant, l'arrivée provisoire, le 9, le 13, le 10, le 7 et le 6.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Olivier Boella et le ministre de la Santé est en train de parler. À l'instant, il commence, Olivier Véran, et je pense que, Olivier, évidemment, qu'on va l'écouter.
On en passera tout à l'heure un extrait à 15h,
en
fonction
de ce qu'il dit. Mais même avant 15h, peut-être.
Ah bah oui, tout à fait.
Parce que nous sommes à l'antenne jusqu'à 14h30, et vous allez être notre vigie.
Je passerai, dès qu'il y a une annonce importante, je viens vous prévenir.
Ah oui, vous venez nous dire, parce qu'effectivement, qu'on sache... Ah, manifestement, il a fait un geste avec la main pour dire que ça montait. Ah, je n'ai pas la.
Bah écoutez, je repars l'écouter et je reviens.
Je n'ai pas le son. Mais il a, avec son bras.
Un peu plus de 20 000 cas positifs diagnostiqués chaque jour, c'est beaucoup. C'est moins que les 50 000 cas de la vague de l'automne que nous avions par jour, mais cela reste à un niveau élevé. Et quand on regarde la tendance, cela augmente d'environ 10% par semaine, en moyenne, depuis 3 semaines. Donc nous faisons le constat que le virus circule beaucoup. Et qu'il circule un peu plus chaque semaine. S'il y a un mois encore, on constatait une grande différence...
Alors on ne va pas tout écouter, hein, bien sûr, parce que c'est l'émission des auditeurs, mais vous avez entendu que, chacun peut le voir d'ailleurs, en tout cas le constater, il y a de plus en plus de cas. Nous sommes donc avec Thierry, avec cette décision qui a été prise d'interdire les motards de remonter... les voitures sur le périphérique ou sur les fils, sur les routes. Et vous trouvez que c'est une bonne chose alors que vous-même, vous êtes motard. Pourquoi ?
Alors déjà, c'est pas que pour les motards, c'est pour tous les deux roues motorisées.
Oui, vous avez raison. Oui. Thierry ? Il est parti, Thierry. Il était peut-être en moto. Bon, Igor est là. Igor, et c'est le même sujet, bien sûr. Mais Igor, vous êtes chauffeur routier. Vous n'êtes pas motard.
Si, moi je suis les deux.
Bonjour. Ah, vous êtes les deux. D'accord. Donc, vous êtes pour ou contre cette mesure ?
Moi, j'ai envie de vous dire, là, on va faire simple. C'est vrai que remonter les fils, faire de l'interfile, c'est quand même très, 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 très dangereux. Surtout sortant mouillé, parce qu'on a quand même tendance à rouler un peu sur les lignes pointillées, ça glisse pas mal. Beaucoup de gens, lorsque la circulation est ralentie, ont tendance encore malheureusement trop souvent à être le nez dans leur téléphone. Donc voilà, et puis on a des motos, c'est justement quand on roule en moto et qu'on est des vrais motards, ça nous permet souvent d'éviter de prendre trop de bouchons, quoi, tout simplement.
Ah, oui, non, mais ça j'ai bien compris, mais c'est pas ma question. Ma question, est-ce que vous trouvez que c'est bien qu'on interdise aux motards de remonter les fils?
Alors,
c'est
non,
pas bien.
Pour la bonne et simple raison, c'est que on paye le tribut de gens qui ne sont pas motards en définitive. Donc je vais donner un exemple tout simple, hein. Pareil, je vais pas me faire forcément des amis, mais c'est pas grave. Et Dieu sait que j'ai beaucoup de copains qui sont dans cette situation, qui ont acheté des 125 cm3, scooters ou petites motos, et qui sont ce qu'on appelle des motards du dimanche, c'est-à-dire des gens qui roulent très peu, qui n'ont pas fait de deux roues depuis pratiquement la sortie de l'adolescence, et qui ont acheté ça quand ils sont arrivés sur les 35-40 ans, et qui n'ont pas d'expérience, qui font un petit peu tout et n'importe quoi. Et comme à chaque fois, c'est toujours les bons qui vont payer pour les mauvais.
Oui, mais je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils font de pas bien, eux, et pourquoi vous payez pour eux?
Ben, parce qu'ils prennent des risques qui sont complètement aberrants.
Mais parce qu'ils remontent, les fils?
Ah oui, mais moi, avec la moto, quand il y a deux semi-remorques qui ne sont pas à l'arrêt, et puis moi, déjà, je passe pas entre deux semi-remorques l'un à côté de l'autre, je ne double pas par les bandes d'arrêt d'urgence. Et ça, on le voit au quotidien. J'habite sur la région lyonnaise, donc c'est une grosse agglomération. Et ça, on le voit tous les jours, que ce soit la rocade.
Oui, mais vous remontez quand même des fils. Alors, ce que vous me dites que je comprenne, c'est que vous pouvez remonter des fils, mais même dans cet exercice-là, faut être quand même prudent et faut pas faire n'importe quoi. C'est ça que vous dites?
Ah ben, il faut pas remonter les fils à des vitesses extrêmes. Hein.
Je vois bah oui, mais ça, personne ne fait quand même.
Ah si, malheureusement, je vois beaucoup de motards qui le font. Je parle bien de motards.
Ouais.
Non, après.
Donc vous remontez les fils, mais lentement.
Bah lentement, on roule forcément 20 km/h de plus que les véhicules en règle générale.
Bah quand on remonte les fils, de toute façon les fils sont à l'arrêt, j'imagine.
Pas forcément, ça peut être un trafic ralenti à 25-30 km/h.
Bon, mais alors donc, vous êtes quand même vous regrettez, parce que j'arrive pas à savoir, vous regrettez que cette mesure soit stoppée.
Voilà, tout à fait.
D'accord.
Tout à fait.
Donc, et vous dites, si tout le monde était comme vous, Igor, qui est un bon chauffeur et qui sait évaluer d'une certaine manière la dangerosité lorsque vous remontez une file, à ce moment-là, on pourrait continuer cette mesure. C'est ça que vous dites.
Voilà. Après, moi, je ne veux pas me vanter auprès de personne, mais bon, j'ai quand même plus de 2,5 millions de kilomètres au compteur entre le camion, la voiture. J'ai jamais eu un seul accident. Ça peut arriver à n'importe qui. On s'entend bien.
Non, mais c'est toujours la même question. Moi, je connais personne qui dit je conduis mal. C'est toujours pareil. C'est comme le chasseur. Il y a le bon motard et le mauvais motard.
Je dis pas que je conduis bien. Je dis juste que j'essaye d'être attentif à ce qui se passe autour de moi.
Non, mais vous dites, voilà, les autres, il y a des chauffeurs du dimanche ou des motards du dimanche.
Oui, mais c'est des gens qui font 1000, 2000 km dans l'année et qui font ça que l'été. Moi, je roule 12 mois sur 12.
Vous avez quoi comme motard? Comme moto?
J'ai une grosse cylindrée de marque américaine.
Une Harley Davidson.
Voilà.
D'accord. Bon, donc c'est une passion, c'est un art de vivre en fait la moto pour vous.
Oui, tout à fait. En plus, l'avantage des
la liberté
aux sportifs, c'est que nous on fait un peu de bruit, mais c'est toléré, donc on est un peu moins embêté avec ça. Alors, on nous entend quand même bien arriver.
D'accord.
Il y a quand même des gens qui sont un peu réticents, qui au lieu de s'écarter vont faire exprès de nous serrer un peu parce que eux ils sont pris dans le bouchon et qu'ils veulent pas nous laisser passer.
Oui, mais ça c'est des imbéciles.
Mais on en a quelques-uns. Hein.
Bon, il y en a parfois.
C'est le jeu, on fait avec. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
C'est des imbéciles.
Mais voilà, mais moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on nous l'interdise. Et que, surtout, moi, je vois, si jamais on peut. Moi, j'ai pas les chiffres, malheureusement, mais je suis sûr, chez moi, on pouvait étudier les chiffres accidentogènes par rapport aux deux roues. On s'apercevrait qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de petites cylindrées, style scooter et 125, que de grosses cylindrées, quoi.
Bon, merci beaucoup, Igor. Merci beaucoup. On va marquer une nouvelle pause. On a retrouvé Thierry. Et puis, figurez-vous que c'est l'anniversaire aujourd'hui de Nicolas Sarkozy, qui a des témoignages qui arrivent. Alors, sont-ils positifs ou négatifs? Je ne sais pas. On va découvrir tout à l'heure, Greg Caranoni. Vous faites de la moto, Greg?
Non, j'ai eu quelque temps un Solex.
Non, vous n'avez pas de. Mais c'est pas votre génération, les Solex.
Et alors? C'est multigénérationnel, la preuve.
Moi, j'avais un 103.
Ah écoutez, moi j'avais, je sais plus alors quel était le modèle précis de ce Solex. C'était génial, j'ai adoré ce Solex.
C'est vrai?
Oui, mais je suis très sérieux, je me le suis fait voler à Toulouse, mais sinon c'était super.
À Toulouse?
Je suis sûr
que
vous
alliez jusqu'à Toulouse avec votre Solex?
Non, je vivais à Toulouse à l'époque.
Ah, je pensais que vous alliez de Paris à Toulouse en Solex. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RT.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
À 14h10, on a retrouvé Thierry. Thierry, lui, est favorable à interdire aux motards de remonter les fils alors qu'il est motard lui-même. Pourquoi ?
Je n'ai pas dit que je suis favorable d'interdire. J'ai dit que je comprends la décision, bien que je la regrette. Je la comprends et je partage ce que disait Igor. J'ai eu l'occasion d'aller à Paris il y a 2 ans en arrière à moto, à deux. On roule toujours à deux avec ma femme. Et sur le périphérique, moi, en tant que motard, j'avais peur. Parce qu'en fait, il remonte entre deux files de voitures à des vitesses qui ne sont pas du tout appropriées. Il était convenu qu'on devait rouler à une vitesse lente. Et on nous avait donné l'autorisation de remonter les files de voitures à cette condition. Vous êtes sur Paris, donc vous voyez tous les jours. Moi, je l'ai vu pendant une semaine quand j'y étais. C'est la jungle, le soir. Ça passe à droite, à gauche.
Non, mais c'est vrai.
Il y a ce syndrome du je mets les feux de détresse, tout le monde me voit, je risque rien. On n'a que deux roues. On n'est pas protégé. Donc, une fois de plus, je reprends ce que disait Igor juste avant. Les bons payent pour les mauvais. Je ne dis pas que je suis un bon. Quand je remonte une file de voiture, j'ai une grosse cylindrée. J'ai la même moto que les gendarmes et la police, pour vous donner un peu la catégorie de moto clé. Et quand on remonte, on est en seconde. Et on roule tranquille avec les feux détresse. On fait attention que tout le monde nous ait bien vu. Les voitures qui nous font le plus souvent passer facilement, c'est paradoxal, ça a été des voitures de police ou de gendarmerie. Ils nous voient arriver, ils se serrent à droite, on passe, merci, avec le pied, quand on pied, on dit merci, et on continue notre route. Mais moi, je me suis fait doubler, mais tout le temps sur le périphérique, je me demandais ce qui arrivait. Je parle de Paris parce que j'ai été à Paris, mais je vais à Bordeaux, c'est pareil. Hein.
Vous habitez où aujourd'hui ?
Les bureaucrates qui vont au boulot en scooter et tout ça, là, qui font du scooter que 5 km par jour pour aller le matin et le soir, ils ne roulent pas du reste de l'année. Nous, on fait des longs trajets et tout, on sait ce que c'est que de rouler en deux roues. Eux, ils ne savent pas. C'est un moyen de locomotion pour se rendre au boulot plus rapidement, c'est tout.
Bah oui, mais en quoi est-ce répréhensible ?
Non, ce n'est pas répréhensible. C'est qu'ils n'ont pas la notion du danger et de la conduite d'un deux roues réel tous les jours.
Vous habitez où, vous, en Charente ?
Près d'Angoulême.
Où ça, près d'Angoulême ?
La Rochefoucauld.
La Rochefoucauld. Ben, c'est vrai que c'est plus calme, le trafic, sans doute.
Ah, c'est sûr que nous, niveau remontée de fil, on n'est pas trop embêtés. Hein.
Oui, c'est vrai que Paris, c'est...
Si il y a un tracteur sur la route et que ça ralentit un peu la circulation, on peut remonter un petit peu.
Non, mais Paris, c'est
non,
de
mais
temps
Paris,
en...
parce que j'ai eu l'occasion...
Non, mais c'est compliqué, vous avez raison. Vous avez dit tout à l'heure, c'est la jungle, oui. Je vous le confirme que parfois, c'est même la guerre.
Non, mais je vais vous dire quelque chose. On était à Paris, le samedi, on a fait 46 km à moto dans Paris.
Oui.
C'est que dalle, tiens. Mais j'ai été lessivé. La veille, j'avais fait 600 bornes d'une traite pour aller à Paris en moto, pleine forme. Les 46 km dans Paris en deux roues, je suis rentré le soir, j'étais lessivé.
Non, mais c'est marrant parce que les gens qui viennent à Paris nous disent souvent ça.
Les pavés, les trottinettes, les travaux, ça arrive à droite, ça arrive à gauche, devant, derrière. C'est d'un stress.
Les gens nous disent ça, nous on s'en rend plus compte, mais parce qu'on vit... D'abord, à Paris, il n'y a pas de Parisiens. On est tous venus de nos provinces, hein, j'ai envie de dire. C'est rare, les gens qui sont nés à Paris.
Et du coup, Pascal, je suis désolé, mais une fois de plus, on est obligé de dire Paris n'est pas la France, mais malheureusement, parce que c'est malheureusement sur Paris, c'est là où il y a le plus de deux roues qui remontent les villes, eh bien, on annule... C'était une super idée à la base. Les vrais motards, je ne veux pas stigmatiser, mais ceux qui font de la moto, comme Igor, comme moi, qui en faisons toute l'année sur des grands trajets et tout, on était super contents et on n'a jamais de problème.
Bon, en tout cas, vous vivez dans un coin magnifique de France.
Tous les coins sont magnifiques.
Ouais, mais cette région d'Angoulême qui est calme, où il fait souvent beau, il y a beaucoup de soleil.
Aujourd'hui, c'est raté.
Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de luminosité. Il fait souvent beaucoup plus chaud que effectivement à Paris, hein, en clair. C'est vraiment une belle région. Et puis vous êtes près de tout, donc vous êtes près de l'océan, et ça c'est formidable. Merci beaucoup, Bernard. Merci.
Non, c'est Thierry, moi.
Oui. Parce qu'en fait, c'est Bernard maintenant que je vais recevoir. Exactement, Thierry, pardonnez-moi. Mais c'est vrai que là encore, j'anticipais. Bernard nous attend. Merci Thierry. Hein.
Merci beaucoup, Pascal. Bonne fête à tous. Merci.
Et Bernard est là. Bernard, bonjour. Vous habitez Josillé.
Oui. C'est ça, le plus beau village de France. Comme
Et alors, vous vouliez aujourd'hui, comme c'est l'anniversaire de Nicolas Sarkozy, il est né un 28 janvier, il est donc né sous le signe du Verseau, il a 66 ans, et vous vouliez, je ne sais pas si lui rendre hommage, dire du bien ou dire du mal.
Bah, c'est-à-dire qu'on a des, il y avait aussi l'idée, c'est est-ce que Nicolas Sarkozy pourrait revenir en 2022, par exemple, hein, vous voyez. Et donc moi, voilà, donc moi j'ai, ce que je peux dire, c'est que j'ai eu un avis mitigé sur lui, puisque vous voyez, j'avais voté Hollande. Bon, j'étais un peu déçu. Bon, on
paraît bien là-dessus. Mais pourquoi vous m'étonnez?
Ah non, non, bah écoutez, parce que il a été tellement bon que ça m'a déçu. Je me suis dit, tellement c'était bon, si vous voulez, on en perdait notre raisonnement. Mmh. Bon, après, si vous voulez, j'ai voté aussi Macron, et là, on va pas épiloguer là-dessus non plus, mais je suis assez déçu de la façon dont ces crises sont gérées. Et ce qui m'inquiète un peu, si vous voulez, c'est que je me dis, que va-t-il se passer en 2022? Va-t-on encore avoir un dilemme, ou un non-dilemme, je ne sais pas, entre Macron et...
Mais là, on se dirige vers un deuxième tour, Macron-Le Pen.
Oui, bah d'ailleurs, il y a eu une statistique là-dessus. D'ailleurs, vous en avez parlé sur l'antenne. Je trouve que cette statistique était inutile. Enfin, c'est pas le but de notre discussion, là. Mais bon, bref, parce que anticiper en 2022, déjà au deuxième tour direct, on ne sait même pas qui va se présenter. Donc voilà. Mais par contre, là, je me dis, peut-être si les Républicains savent mettre leur ego dans leur poche, hein, parce qu'ils ont tous envie d'y aller, quoi, parce qu'ils sont tous les meilleurs. Peut-être ça pourrait être un homme charismatique qui pourrait nous aider à surmonter ce que j'espère que non, hein, mais ce que va être les 5 ans 2022 à 2027 après ce qui se passe en ce moment, si vous voulez. Bien que, vous voyez, je dis Nicolas Sarkozy, bon, on le connaît, ses mauvais côtés, il est un peu narcissique, donc en fait, il a l'impression d'être plus fort que tout le monde, il bouscule tout le monde.
Ah, autrement, tu ne deviens pas président de la République. Souvent, il faut bien une personnalité. Alors, vous dites narcissique.
Je suis d'accord avec vous.
Je suis pas sûr que ce soit le mot qui convienne, mais forcément, il a une confiance en lui. Autrement, c'est quand même des destins, des trajectoires, des parcours qui sont exceptionnels. Puisque souvent, les présidents de la République ont voulu l'être quand ils avaient 20 ou 25 ans. Bon. Ils se sont dit, non, mais il faut être une part. C'est une forme de, j'allais dire, de folie. Dire je veux être président de la République, convenez que c'est pas dans le cerveau monde.
Tout à fait. Bien entendu, ce sont des hommes exceptionnels avec des façons de voir les choses exceptionnelles. Mais vous en avez qui sont plus. Vous avez quand même des plus narcissiques que d'autres, si vous voulez.
Vous trouvez?
Ah bah oui. Oui. Moi, je pense que là, lui, c'était quand même, si vous voulez. C'était quand même, c'est moi le meilleur, je vais tout nettoyer au Karcher, il y aura plus de grève avec moi, etc., etc. Donc là, c'est vraiment avoir son ego tellement surdimensionné qu'on se dit, on va tout régler nous-mêmes. Bon, il a quand même déchanté un peu. Mais il faut lui reconnaître, ça, c'est des aspects négatifs. Par contre, il faut lui reconnaître, par exemple, la crise financière, ils sont les.
Oui, puis il a un truc, Nicolas Sarkozy, que, si vous me permettez, moi, j'aime bien, et on voit, par exemple, par rapport à Trump, c'est qu'il sait perdre. Et il sait perdre avec beaucoup d'élégance. À chaque fois qu'il a perdu, les discours de défaite ont toujours été d'excellents discours, pour le coup. Ce qui montre que le mot narcissique, peut-être, n'est pas forcément adapté. Parce que les narcisses, justement, et là, on l'a vu avec Trump, ils encaissent beaucoup moins la défaite que cela.
Attendez, le mot... Oui, parce que Trump, si vous voulez, à mon avis, c'était carrément un narcissique pervers, si vous voulez.
On va faire des diagnostics psy en direct. Bon, en tout cas, merci. Pardon, parce que Bernard, je crois qu'on va marquer une dernière pause.
Donc, pour terminer, moi j'aimerais bien le revoir, se mettre sur la piste, si je puis dire, pour 2022, pour éviter d'avoir ce qu'on vient de dire. Voilà.
Et ben merci en tout cas, et puis on terminera avec Elisabeth, alors je ne sais pas non plus si elle est positive ou négative sur Nicolas Sarkozy, puis peut-être qu'on aura une petite chanson, parce que c'est toujours bien, Greg, de terminer en chanson.
Je vais trouver quelque chose, mais je crois que Laurent prépare une petite surprise.
Ah, bah tant mieux.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Elisabeth, bonjour.
Bonjour Pascal.
Vous êtes une pro ou une anti-sarco?
Oh, bah, je suis une pro de la première heure.
Ah, donc vous souhaiteriez...
Je commence déjà par souhaiter un très joyeux anniversaire à Nicolas Sarkozy. Mmh. Parce que vu tout ce qu'il a pris sur la tête depuis toutes ces années, je me demande comment il arrive encore à rester droit dans ses bottes. Mmh. Et franchement, je le félicite d'être encore là, sans faire de vagues. Mais je n'attends qu'une chose, c'est qu'il revienne.
Alors c'est vrai que son calendrier judiciaire est un peu embouteillé. Et c'est
oui,
ce qu'il freine,
oui.
Peut-être, j'imagine, hein, oui, pour
non,
lui,
mais,
un retour
bon,
possible
vu
en politique.
Il a enduré, il n'est pas à ça prêt, et je pense que...
La prochaine échéance, c'est le 1er mars.
Oui, bon, on en est...
Où il sera jugé pour l'affaire des portables, si j'ose dire.
Oui, voilà, bon, une de plus, hein, il n'est pas à ça prêt, de toute façon... Là, je ne doute pas une seconde qu'il en sortira encore par un non-lieu ou quoi que ce soit. De toute façon, on a un pouvoir à l'heure actuelle qui a peur de lui. Je pense qu'il y a beaucoup qui ont peur qu'il revienne. Et moi, je n'espère qu'une chose, c'est qu'il va revenir sur le devant de la scène et qu'il va se présenter aux élections de 2022. Parce que le duel Macron-Le Pen, même pas en rêve. Hein, j'ai voté d'ailleurs blanc aux dernières élections, justement à cause de ça. Et je pense que c'est le seul à l'heure actuelle qui peut remonter la France. Déjà, d'une part, c'est que je pense qu'il a dû... il doit à l'heure actuelle être conscient de ses... Comment dire ? De ses échecs par rapport à son premier mandat qu'il y a pensé, et il saura rebondir pour un deuxième mandat.
Mais merci Elisabeth de ce vœu que vous formulez, j'imagine
oui,
ça fera plaisir.
Et je voulais juste rajouter une petite chose, c'est par rapport à Gilles de 85 ans qui est absolument extraordinaire.
Ah, il était formidable.
Continue comme ça.
Je suis d'accord
avec
vous.
Bernard aussi, je soutiens par rapport aux motards, parce que moi je suis très respectueuse de leur des deux roues, et je comprends ce qu'ils ressentent.
Eh bien, merci beaucoup Elisabeth, c'est l'heure du débrief.
13h, 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
Laissons parler les gens.
Oui, parlons-nous.
Parlons-nous tous les jours au 3210, et une question se pose ce midi.
Et on parle évidemment du confinement à venir, qui sera peut-être serré, voire très serré, comme le café.
Quelle sera la sauce du confinement ? Strict, très serré, light, une chose est sûre, ça ne passe pas pour Bruno, restaurateur à Paris. Il a été le premier à pousser aujourd'hui un coup de gueule dans l'émission.
Que nous remettent encore en confinement, je crois que ça va être la pagaille. Ça va être un tas de pintades qui vont être dans une cage d'enfer. Je pense qu'on n'en peut plus aujourd'hui, on n'en peut plus.
Et oui, mais ça ne se traduit pas dans les études.
Alors qu'ils ferment les grandes surfaces, ce bordel. Excusez-moi, mais merde, ça va, quoi.
Un coup de gueule qui ne s'est pas arrêté là.
Je ne touche aucune aide, moi.
Vous touchez zéro.
Aucune aide, parce que je viens de faire une création d'entreprise.
Mais comment vous faites alors? Vous aviez des revenus avant?
Ben voilà, comment je fais? Je vis sur mes ressources. Ben j'en ai marre de brouter de l'herbe, j'en ai marre.
Et si les membres du gouvernement nous ont écoutés ce midi, ils doivent bien s'arracher les cheveux. Et pour Clément, notre situation n'est pas surprenante.
C'est pas vraiment pour sauver une population qu'on va se protéger du virus, c'est pour en fait désengorger les hôpitaux.
Bien sûr.
Sauf que voilà, les hôpitaux, on les ferme depuis 30 ou 40 ans. On le paye aujourd'hui.
Au menu, justement, la confidence de Pascal Praud.
Vous aimez les papas modernes alors ?
J'aime tout ce qui est moderne.
Ah, tiens, vous êtes moderne, oui. Très moderne, surtout dans vos goûts musicaux.
C'est la chanson de la Belle Équipe, un film de Julien Duvivier, et c'est Gabin qui chante ça, mais c'est formidable.
Et un témoignage nous a marqué, celui de Gilles, 85 ans.
Ah oui, Gilles, magnifique.
Il avait un message à faire passer au gouvernement.
Formidable,
Gilles. Cet après-midi, j'ai rencontré quelques copains qui n'ont pas peur du Covid et qui disent, on verra bien, on a vécu, on a profité de la vie, mais qu'on s'occupe des jeunes, par pitié, qu'on s'occupe d'eux. Aïe.
Le témoignage de Gilles était formidable parce qu'il nous parlait tout simplement de lui, de sa vie et son programme aussi cet après-midi.
Ça va faire un peu ringard, on va jouer au bridge.
Ça c'est bien le bridge. Allez, le débrief pour aujourd'hui c'est terminé. Une petite chanson.
Pour le plaisir.
temps. C'est beau.
Il faut prendre du temps. Pour le plaisir, ça va être évidemment l'arrivée de Flavie Flamand dans ce bureau.
Vous pensez que c'est partagé ?
Non. Je pense que... Ah ben elle est en train de danser, elle entre.
Madame, monsieur, bonsoir.
Elle est entrée dans le studio. Elle danse, vous dansez ? Ah oh, dites non. Passez un cerveau. Oui, il faut danser. Vous avez raison. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.